Vous écoutez Radio Panique 105.4 FM ou en streaming www.radiopanique.org. Un souci technique qui nous a empêché d'enregistrer le début de cette émission Panique sur la ville qui a eu lieu le 7 juillet 2021 au parc Josaphat. Alors on se permet de refaire cette introduction en studio. Dans cette émission, on a eu envie de s'intéresser à la place des femmes dans le monde de la musique car on avait un pressentiment de voir moins de femmes sur scène lorsqu'on va à des concerts ou dans un festival, de voir moins de femmes qui travaillent dans le secteur de la musique. Et donc, on se pose des questions. Pourquoi les femmes musiciennes sont-elles sous-représentées, quels que soient les genres musicaux? Quelles sont les barrières qui freinent l'égalité? Quelles sont les solutions pour viser à une plus juste représentativité entre les genres dans ce domaine? Alors c'est un vaste sujet. On a une heure pour en discuter et on est consciente qu'on ne pourra pas aller en profondeur, mais on souhaite au moins éclairer sur ces questions. Et avant de présenter les invités autour de la table, on s'est prêté un exercice qui n'a rien de scientifique, mais on en avait envie. Alors on a pris un centre culturel bruxellois, celui d'Anderlecht, l'Escale du Nord. On a pris sa programmation musicale de l'été, adressée au grand public. Tous les jeudis, vous pouvez assister gratuitement à un concert dans le jardin du centre culturel. Et donc, durant les mois de juillet et d'août, il y aura 10 concerts musicalement assez variés, du jazz, du folk, de l'afrobeat, du rap, de la cumbia, une fanfare, du rock, de la fusion africaine. En tout, 10 groupes qui joueront sur cette scène. Maintenant, si on détaille, 8 groupes sont composés exclusivement d'hommes, donc 80% de la programmation. Un groupe est composé d'une femme sur 7 membres. Et un groupe, un seul sur 10, est composé exclusivement de femmes, c'est le duo Juicy. Un autre exemple, prenons un festival, Couleur Café. Cette année, la programmation de ce festival est chamboulée par vous savez quoi. Il n'en demeure pas moins qu'il y a 19 groupes à l'affiche. 13 groupes sont composés uniquement d'hommes, donc 2/3 de la programmation. Et 1/3 sont des femmes invitées. DJ Marcel, Miss Angel, Pongo, Stace, Drunk Nights, Collective et Juicy encore. On le répète, ce n'est pas une étude scientifique, c'est un simple exercice que vous pouvez facilement faire en observant la programmation des salles de concert et des festivals où vous avez l'habitude d'aller. On ne cherche pas non plus à jeter la pierre sur ces centres culturels ou autres festivals, mais il semblerait que sur le devant de la scène musicale, les hommes soient plus représentés que les femmes. Il semblerait aussi que ce soit le cas derrière la scène. Alors, pour parler de ce sujet, nous avons autour de la table des invités. Sarah Bouatous, qui est coordinatrice de Civias, une plateforme dont on parle plus en détail tout bientôt, et aussi coordinatrice du programme de mentorat Mewem Belgique, destiné aux femmes entrepreneuses du secteur de la musique. Une autre Sarah, c'est Sarah Gravier, programmatrice section musique du monde et jazz au Sangor, le centre culturel d'Etterbeek. Et toutes deux, vous êtes aussi étudiantes à l'ULB dans le même master en études de genre. Nous avons aussi autour de la table une des membres de POXCAT, un collectif de DJ, il s'agit de Roberta Miss. Pour la rédaction de Radio Panique, nous avons Eugénie, Anna, Zoé en technique assistée de Suzy et moi, Arthur. Alors, au programme ce soir, on fera le constat de cette inégalité de représentativité entre les hommes et les femmes dans le secteur de la musique. On se demandera pourquoi c'est ainsi et que peut-on y faire pour y remédier. On s'intéressera plus précisément aux femmes musiciennes, auteurs, compositrices, interprètes et ce qui fait qu'elles sont programmées ou pas dans les lieux culturels. On tentera aussi de s'intéresser à tous les styles musicaux, les musiques actuelles, l'univers du DJing, mais aussi on ira voir du côté de la musique classique. Alors, pour débuter, et c'est un bout d'entrevue qu'on n'a pas pu enregistrer, on demandait à Sarah Bouatous de nous parler de Civias. Donc Civias, déjà, le mot vient du latin « sache les voix ». Ce nom, Civias, a été inspiré de Hildegard de Bingen au XIe siècle, une religieuse bénédictine, mais également une musicienne et femme de lettres. Civias est une plateforme d'institutions qui œuvre dans le développement de la carrière musicale, Wallonie-Bruxelles Musique, Court-Circuit, Pôle Musique Actuelle Wallonie-Bruxelles, Conseil de la Musique, Studio des Variétés Wallonie-Bruxelles, Service des Musiques Non Classiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Botanique. Et ces institutions du secteur public en Fédération Wallonie-Bruxelles affirment donc l'existence de discriminations implicites et explicites des femmes ou se reconnaissant comme telles dans nos sociétés avec des répercussions indiscutables dans le secteur musical. Et là, on retrouve Sarah Bouatous, la coordinatrice de Civias, qui nous parle de la charte qui a été écrite par Civias.
Elle dit que on affirme l'existence de discriminations qui sont à la fois explicites et également implicites, dont les femmes sont l'objet dans le secteur de la musique. C'est aussi une charte qui propose d'agir pour vraiment visibiliser, rendre beaucoup plus visibles ces discriminations. Et puis, au sein des engagements, il y a aussi celui de donner des données. C'est-à-dire que nous, on demande à nos membres de nous fournir des données à la fois qualitatives et quantitatives pour nous permettre d'établir un peu un état de l'ampleur des discriminations dans ce secteur. Voilà ce que dit la charte.
Très bien. Et donc ces membres fondateurs, ces institutions membres fondatrices ont signé cette charte, mais aussi il y a d'autres personnes, d'autres opérateurs ou opératrices culturelles qui peuvent signer cette charte.
Oui, tout à fait. Alors en fait, on peut être membre de CVS. Donc par exemple, aujourd'hui on a 40 membres qui sont autant des labels que des festivals, des salles, enfin voilà, tout professionnel du secteur de la musique. On a également des amis, donc là qui ne sont pas forcément des structures ou pas forcément en Belgique ou peut-être déjà engagés fortement dans la cause, et donc dans ces cas-là c'est plutôt des amis. Voilà, on a ces deux statuts.
Et votre principal engagement, c'est d'admettre du coup ces inégalités et de les rendre visibles. Et pour ça, vous publiez des rapports, du coup, vous collectez de l'information.
Oui, tout à fait. On publie annuellement des rapports. Donc il y a eu un premier rapport numéro 0 qui est sorti en septembre 2019 et puis un rapport numéro 1 en septembre 2020. Alors, juste un petit mot, c'est moi je suis arrivée à la coordination de CVS il y a 3 mois maintenant, et donc ces rapports, c'est Élise Dutrieux qui a cofondé et coordonné la plateforme avant moi, qui a fait ce travail colossal en fait de récolte des données auprès des membres et d'analyse de ces données. Donc, ce sont des données quantitatives et qualitatives. Et voilà, et qui nous permettent d'avoir un peu une vision d'ensemble de l'état des inégalités. Par exemple, sur le rapport numéro 1, donc qui est le plus récent, c'est assez intéressant parce que on voit assez clairement un phénomène de double ségrégation sexuée, qui est un phénomène qui en fait a été théorisé déjà il y a quelques années par des chercheuses et sociologues dans le secteur de la musique. Et en fait, c'est cette idée que déjà les femmes sont peu nombreuses dans le secteur de la musique. Et elles sont victimes d'une ségrégation, d'une part, horizontale, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas, elles ne se retrouvent pas de la même manière que les hommes à tous les postes. Par exemple, dans le rapport numéro 1 de CVS, on voit qu'il y a 76% de femmes au poste d'administration et elles sont seulement 7% au poste de technique et de régie. Déjà là, il y a une grande inégalité. Et puis par-dessus ça, il y a une autre ségrégation qui est verticale en fait, et c'est ce fameux plafond de verre. C'est-à-dire que les femmes sont empêchées d'accéder à des postes à responsabilité, des postes stratégiques, qui sont les postes aussi les mieux rémunérés. Et donc par exemple, dans le rapport numéro 1, on a 28% de femmes au poste de direction et seulement 17% au poste de programmation artistique. Voilà, donc il y a vraiment ce phénomène de double ségrégation qui est, enfin, en tout cas au sein des équipes des membres de CVS.
Et en bar restauration, c'est 100%.
Tout à fait. Tout à fait. Et puis après, pour ce qui est de la programmation, on avait aussi le chiffre de 28%, donc 28% de femmes en tout et pour tout programmées pour ce qui est des labels, salles et festivals. Voilà.
Du coup, ça montre à travers ce rapport et ces résultats quantitatifs, voilà, que les femmes sont moins visibles dans le domaine de la musique. Et donc, dans ce rapport aussi, je pense que vous citez des besoins. Alors, je ne sais pas si ce sont des besoins exprimés par les organismes ou par ou par vous, toute une liste comme ça de besoins. Est-ce que tu peux préciser un peu ces besoins qui permettraient peut-être de faciliter enfin de rééquilibrer cette question de représentativité?
Oui, alors, enfin, en fait, il y a des besoins, en fait, un peu à tous les niveaux. Hein, y a besoin d'argent, il y a besoin de temps, de personnes pour mettre des choses en place. En fait, il y a vraiment les membres, ils s'engagent, ils signent cette charte avec vraiment l'envie d'agir pour une meilleure représentation des femmes et des minorités de genre. Après, c'est à nous de les accompagner, de les soutenir et de pouvoir leur apporter des outils et des ressources. Pour les aider dans leurs actions, et c'est vraiment ce à quoi on réfléchit en ce moment avec les membres fondateurs de CVS. En septembre, on va mettre en ligne un nouveau site internet qui sera l'occasion de proposer aux membres et puis en fait à tous les professionnels et toutes les professionnelles du secteur de manière plus générale des outils, des guides, différentes ressources en fait pour les aider. Puis à partir de septembre, on va aussi mettre en place des formations et des ateliers. Voilà, notamment un atelier avec le plan Sacha. Voilà, on réfléchit à toutes ces petites choses qu'on peut mettre en place pour accompagner nos membres et les professionnels. Les besoins sont nombreux et ils sont très différents. Donc voilà.
Oui. Peut-être par rapport à ces chiffres que vous avez entendus autour de la table, si je vois que des gens prennent des notes, c'est super. Je ne sais pas, est-ce que vous avez envie de réagir ou ça vous parle quand on dit que voilà, dans les postes de direction, c'est juste 28% de femmes qui occupent cette fonction. Au niveau de la programmation artistique, 17%, peut-être Sarah Gravier du coup, programmatrice au Sangor.
Moi, je trouve ça intéressant de s'intéresser dans le domaine de la musique, parce que souvent, la musique, c'est vu comme un art pur, qui n'est pas affecté par le contexte culturel et social. Et justement, ces recherches et ces études montrent que le genre, en fait, est partout dans la société, même dans la musique, et qu'il faut s'intéresser justement à ces domaines qui paraissent intouchables pour remettre en question les rôles des hommes et des femmes et des minorités de genre dans ces milieux-là également, quoi.
Très bien. D'autres?
Moi, je sais pas, ça me passe par la tête, mais je me demande, est-ce que dans vos réflexions, par exemple, vous réfléchissez à des mesures comme justement, pas imposées, mais de discrimination positive dans des programmations, le fait d'imposer, entre guillemets, une parité dans différents secteurs de la programmation artistique?
Mais juste pour parler du coup de la programmation artistique, il y a un problème, c'est qu'il y a un phénomène d'évaporation, où il y a très peu de femmes, ou en tout cas on connaît moins de femmes dans des structures connues, dans les labels reconnus. Et donc un problème qu'on rencontre en tant que programmateur ou programmatrice, c'est en fait on trouve moins de femmes. Donc même si on met des quotas, trouver une femme par exemple qui est bassiste ou saxophoniste, qui sont des instruments où il y a beaucoup plus d'hommes qui les jouent, ça devient extrêmement difficile parce que tout simplement en fait on les trouve pas. Et donc il faut bien sûr réfléchir quand même à programmer des femmes, parce que je pense qu'inconsciemment, on programme plus d'hommes parce qu'ils sont vus comme des meilleurs artistes. Il y a plein d'éléments qui jouent là-dedans. Mais je pense qu'il faut aussi du coup s'intéresser plus à la racine, et donc au conservatoire, aux académies de musique, à la pratique de l'instrument chez les jeunes enfants également, pour l'ouvrir à tout le monde, quoi.
Une autre intervention? Non ? Par rapport à ces chiffres, déjà, en constat, ça va. Peut-être aussi un point que je voulais nommer, parce que dans notre recherche, on pouvait inviter aussi plein d'autres structures autour de la table, et voilà, on n'a pas pu. Mais il y a toute la question aussi du sexisme dans le milieu musical, artistique, et peut-être pointer deux structures, je pense au groupe de parole en partenariat avec la permanence de féminin singulier pluriel. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, Sylvia, vous voulez mettre en place ou
Alors, c'est le groupe FS.
Oui, c'est ça.
Je crois que Élise Dutrieux, qui coordonnait la plateforme avant moi, avait initié effectivement ces groupes de parole. Et je crois que ça n'avait pas pu se faire à cause du Covid. Il me semble que voilà. Mais c'est une réflexion qui est toujours en cours, évidemment. C'est indispensable, les groupes de parole.
Donc c'est l'idée d'avoir ces groupes de parole pour permettre du coup aux musiciennes et professionnels de se rencontrer dans un espace sécurisé et bienveillant pour du coup témoigner d'expériences vécues dans le monde musical. Une autre plateforme qui existe, c'est Engagement, je ne sais pas si vous la connaissez, Engagement Art. créé dans le sillage du mouvement MeToo, hashtag MeToo en 2017, donc qui regroupe des artistes et des personnes concernées par le milieu de l'art en Belgique et qui s'adresse à leur communauté afin d'aborder le sexisme et les abus de pouvoir dans leur situation de travail, avec une série de témoignages de harcèlement et de discrimination révélant l'oppression systémique dans ce milieu. Mais peut-être, est-ce que cette question du... Eugénie, tu veux dire
quelque chose ? C'est une plateforme belge ?
C'est une plateforme belge, oui.
Ok, merci. Voilà.
Engagement art, on trouve sur le site internet. Est-ce que par rapport à cette question du sexisme dans le milieu musical, vous voulez intervenir, ou par rapport un peu vos positions, votre travail dans ce monde-là, ça vous parle, ça mène des questions ?
Juste pour parler du milieu de la musique et du théâtre, en fait c'est un milieu qui est assez particulier, parce que la musique et le théâtre met en jeu son corps, et le corps est le premier élément, je dirais même, visible. Et donc du coup ça crée, enfin il y a aussi la page Instagram Paye ton théâtre, où il y a beaucoup de témoignages, et en fait on voit que les professeurs souvent se permettent des commentaires totalement déplacés sur le corps des femmes dans le milieu du théâtre, parce que c'est leur outil en fait, elles l'utilisent pour jouer avec, et je pense que c'est la porte ouverte à des dérives et à des commentaires. Et un autre problème... qui est spécifique au milieu de la musique et je pense même du théâtre, c'est qu'il y a un rapport de domination extrêmement fort entre les professeurs et les élèves. Le professeur sait ce que c'est le vrai art, va vous l'enseigner. S'il est dur, en fait, c'est pour que vous soyez vraiment quelqu'un de très bon. Donc, en fait, c'est la porte également ouverte à des dérives, même envers les hommes. J'avais lu des témoignages où ils frappaient sur les doigts quand ils tenaient mal leur archet, enfin, ce genre de choses. Et en fait, c'est pas normal que ça se passe dans ces milieux-là. Et donc, je pense que le sexisme peut même être encore plus fort... dedans, quoi.
Ok. Et toujours pour rester un peu dans ce constat, avant d'aborder un peu le cas plus spécifique de la programmation, par exemple, d'un centre culturel ou autre, par rapport à vos fonctions, donc en tant que programmatrice ou en tant que DJ, femme, est-ce que vous sentez ce déséquilibre, du coup, entre le nombre d'hommes et de femmes qui occupent ce poste, et en quoi ça, vous sentez que ça peut affecter votre travail ou votre fonction, ou Roberta?
Je pense que ça change. Enfin, moi, je me réjouis parce que je trouve que pour le moment, ça change énormément. Ces dernières 10 ans.
Ça change comment, du coup?
Beaucoup plus de femmes, beaucoup plus de représentations féminines dans le milieu, en tout cas électronique et du DJing. Et donc, je pense que c'est bien. Ça fait des modèles. Et donc, des modèles auxquels on peut aspirer. Je trouve que ça, c'est important. Après, bon, il y en a qui, enfin, ok, il y a toutes sortes de représentations, à la fois des femmes qui sont très belles, avec le physique est fort mis en avant, et puis il y a quand même aussi des femmes qui le sont pas du tout là-dedans, je pense au milieu du DJing, et donc je pense que pour le moment c'est en train de vraiment être de plus en plus varié, probablement plus aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, enfin, peut-être moins ici, mais bon, ça arrive. Est-ce que j'ai... Si je pense à autre chose, donc pour moi ça change, donc je ne peux que me réjouir.
D'accord, ça change dans le bon sens alors.
Je crois.
Ok. Sarah Gravier, en tant que programmatrice dans un centre culturel, comment toi tu te positionnes?
Oui. Donc pour le petit contexte, j'ai commencé en février et je suis en remplacement, donc je suis encore assez jeune, on va dire, dans ce milieu, mais étonnamment dans le centre culturel d'Etterbeek, donc il y a plusieurs programmatrices pour musique contemporaine de création ou pour jeunes publics, et en fait c'est que des femmes, donc on casse un peu les chiffres, mais bon après c'est l'exception qui du coup, il y a quand même des problèmes qui restent, mais du coup là il y a quasiment que des femmes, et... moi, j'ai jamais vécu en tout cas de sexisme quand j'ai reçu les artistes. J'ai toujours été considérée comme une programmatrice prise au sérieux. Donc, pour l'instant, ça se passe bien, mais voilà, c'est cool.
D'accord. Je propose un interlude musical pour poursuivre les discussions. Alors, c'est une sélection. Alors, c'est Leslie qui s'est occupée de la sélection et en lien avec Eve, une autre membre du collectif Poxcat. Alors, l'idée, ce serait de passer la chanteuse Moyen-Âge et son été pourri, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on a quand même le droit à du soleil, on est chanceux, chanceuse. Des paroles prophétiques, nous dit-on, en tout cas pas pour aujourd'hui. Je lis, hein, ce qu'on m'a dit de lire. Et c'est aussi pour célébrer l'ère du chewing-core. Voilà, je ne sais pas ce que c'est le chewing-core. Moi, je ne sais pas. Non. Mystère. Le morceau fait partie d'une compile de musique muscle, expert en pop de chambre, ambient de salon, reggae de jardin et techno de salle de bain. Moyen-Âge, été pourri.
J'ai passé un été pourri. J'ai passé un été pourri à regarder les oiseaux voler. Regarder les oiseaux voler. J'ai passé un été pourri. J'ai passé un été pourri à regarder les oiseaux.
Nous admirons en fait le lancer de tir à l'arc en direct du parc Josapha à côté de la buvette Saint-Sébastien. Nous nous sommes installés avec le studio volant. Vous écoutez Panique sur la ville. Il est 18h26 sur Radio Panique 105.4 FM ou en streaming www.radiopanique.org. On parle de la place des femmes dans le monde de la musique avec plusieurs personnes autour de la table. On a Sarah Boitous de Sivias, on a Sarah Gravier du Sangor, on a Roberta Miss du collectif Poxcat et Eugénie et Anna de la rédaction qui sont avec moi et Zoé à la technique avec Suzy. Et Zoé, j'ai dit Zoé. Et c'est Arthur qui parle, merci. le chouinecore, c'est ça qu'on a entendu. Chouiner comme pleurer, donc c'est probablement une musique qui fait pleurer. Voilà. Et c'était été pourri de Moyen-Âge. Voilà, très bien. On va s'intéresser peut-être à des cas pratiques comme comment ça se passe quand on programme des artistes dans un centre culturel comme le Sangor. Donc peut-être que Sarah Gravier, oui. Tu peux un peu nous expliquer ben voilà comment on s'y prend quand on est à cette fonction et que on doit penser à une programmation pour l'année.
Donc déjà moi comme j'ai dit je suis rentrée en février donc c'était le contexte du Covid et donc nous ce qu'on a eu c'est beaucoup de reports en fait de projets qu'on a reportés donc j'ai un petit peu moins programmé qu'à la normale mais en fait pour programmer ben il y a plusieurs choix. D'abord on reçoit beaucoup de mails et beaucoup de demandes donc il y a un triage des mails des musiciens et des musiciennes et ensuite il existe des catalogues en Belgique qui regroupent les musiciens et les musiciennes comme IDLM, l'index de la musique. Où tous les musiciens et musiciennes sont répertoriés par région et par genre musicaux.
Oui.
Et on peut faire des recherches par mots-clés. Et il y a aussi le catalogue Arevi. En fait, c'est des groupes qui sont dedans et si on les programme, on soit un subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et si le concert coûte 1 500 €, on va recevoir 500 € de ce subside. Bien sûr, il y a un nombre limité, on ne peut pas programmer que des groupes de Arevi. Mais voilà, c'est des catalogues qui existent, qui regroupent les musiciens et les musiciennes. Je pense que ce serait intéressant d'analyser combien il y a de femmes et combien il y a d'hommes par genre musicaux dans le catalogue Arevi, parce que c'est quand même une grosse aide pour les centres culturels, et on va beaucoup aussi là-dedans pour pouvoir supporter les coûts et les frais. Mais ça, par contre, je connais pas du tout la répartition hommes-femmes dedans.
D'accord. Peut-être préciser, pour avoir fait l'expérience sur tournée Arevi, en fait, il y a des critères de recherche. Mm-hmm. Et donc on peut choisir le genre musical, on peut choisir le coût, le prix de la prestation. Mais on ne peut pas choisir, par exemple, la proportion de femmes d'hommes dans le groupe. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on arrive avec une liste de groupes, et après, il faut cliquer sur le groupe, et après, il faut cliquer sur l'onglet composition, je crois. Et là, on déduit, s'il y a marqué musicienne, que c'est plutôt une femme. Mais voilà, il n'y a pas non plus une facilité.
Ce serait aussi intéressant de se demander comment ils choisissent les groupes qui finissent dans le catalogue Arevi, parce que c'est une aide énorme pour les groupes, sur quels critères, les demandes qu'ils ont, est-ce qu'ils ont autant de demandes hommes-femmes, et puis après du coup est-ce qu'il y a plus d'hommes qui sont dans ce catalogue-là. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de questions autour de ce catalogue qu'on pourrait se poser à analyser.
Et l'autre catalogue dont tu as parlé, c'est l'IDLM, donc le Who's Who de la musique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Mm-hmm. Et le système est un peu différent, mais du coup, c'est toi, Sarah Boitouz, qui m'a précisé. Mais c'est vrai que si tu mets le mot femme dans le moteur de recherche, il y a des résultats qui sortent, mais c'est des résultats qui vont des contacts du cabinet de la ministre de la culture à aussi via ceci et à des artistes femmes. Mais c'est une recherche un peu large et pas précise.
Ouais. Ouais, effectivement, on peut mettre le mot clé femme dans la barre de recherche sur l'IDLM. Mais je trouve qu'il y a un peu une difficulté là-dessus, c'est que il y a cette nécessité de visibiliser les femmes artistes, et en même temps, moi j'ai souvent rencontré des musiciennes en l'occurrence qui ne voulaient pas être programmées parce qu'elles étaient des femmes. Et donc il y a aussi cette difficulté de les visibiliser. Et de ne pas les stigmatiser. Donc c'est...
C'est intéressant. Mais du coup, les mettre... Enfin, oui. Parce que tu dis que quand on les... D'être sur ce genre de catalogue et d'identifier dans les différents critères, fait que ce soit un groupe plutôt de femmes ou pas, ça leur pose un souci de... Parce que c'est pas forcément... Enfin, ça peut être aussi une intention de... Ben, on a envie d'avoir une programmation... égalitaire, ouais, et du coup le seul moyen c'est de pouvoir mettre des critères, comme on a envie qu'il y ait un peu de blues, un peu de jazz, un peu de...
Tout à fait, mais à partir du moment aussi où on met des critères, alors on reste dans cette idée très normée on met des étiquettes un peu partout, mais c'est hyper important pour visibiliser ces minorités, et en même temps c'est très compliqué quand une minorité a juste envie d'être normale, entre guillemets, il n'y a pas de normes, mais enfin voilà. Je trouve que c'est toute cette difficulté en fait. C'est hyper nécessaire, je trouve. Et en même temps, voilà, je connais beaucoup de musiciennes qui voudraient être programmées juste parce qu'elles sont musiciennes et pas parce qu'elles sont des femmes. Voilà.
Intéressant. Du coup, pour finir avec cette histoire de catalogue, il n'existe pas de catalogue qui permettrait de faciliter la visibilité d'un genre plus qu'un autre à votre connaissance, en Belgique.
Ben,
Sarah, on voit tous.
On pense pas, non. Okay. Mais, ouais.
Sarah Gravier.
Du coup, il n'existe pas de catalogue, mais ce que je trouve qu'il existe de plus en plus, c'est des collectifs de femmes qui se regroupent. Et ça peut être intéressant aussi d'aller regarder de ce côté-là, pour voir ce qu'elles proposent, à quel point c'est intéressant, et s'intéresser à ces femmes, parce que un des problèmes aussi... que moins de femmes sont programmées dans les festivals ou dans les salles de concert, c'est que je pense qu'elles passent aussi par des réseaux qui sont moins connus. Et donc ces réseaux, je pense qu'il faut aussi aller vers eux et apprendre à les connaître pour voir ce qu'elles proposent et peut-être mélanger les différents réseaux et découvrir d'autres formes de musique qui sont aussi jouées par des femmes.
Et la balle est lancée du coup à Pox 4, merci pour le lien. Donc Roberta Miss, pourquoi du coup l'idée de créer ce collectif et de se mettre en réseau?
Oui, donc suite à la création en 2017, on a fait nos propres soirées, et j'ai oublié de préciser qu'en 2019, Marouchka nous a rejoint aussi, qui est aussi DJ à Bruxelles, et donc essentiellement c'était une programmation féminine ou de personnes qui s'identifient au genre féminin. C'est des soirées autonomes, on essaye de rémunérer tout le monde à part égale, et on confie le graphisme et les vidéos aussi à des femmes artistes. Donc ça, c'était important. Ensuite, on en a fait un par an à peu près, et puis ça a permis de justement d'avoir de la visibilité, comme tu disais, et finalement d'être programmé aussi dans des lieux plus officiels ou de la culture, comme le Beurs, le Brass, Slivias, toutes sortes de rencontres comme ça. Et puis aussi via les radios, c'était vraiment important parce que ça a été une plateforme qui nous a permis en fait d'inviter des artistes, des jeunes DJ qui avaient peut-être jamais essayé DJ ou qui connaissaient pas vraiment mais qui avaient envie de passer de la musique et qui avaient pas vraiment l'opportunité de le faire. Et donc la radio, c'est vraiment une plateforme super pour ça parce que c'est un studio, c'est assez intime, on n'est pas stressé, il n'y a pas plein de monde devant soi, on est tranquille entre nous, on peut mettre de la musique, boire un coup et ça se passe bien quoi. Et donc on est toujours très remerciante à The World de nous avoir donné cette opportunité, et puis plus tard Lille Radio et ainsi de suite, ou Kiosk Radio bien sûr, faut pas que j'oublie de les citer, très important aussi pour toutes sortes de personnes à Bruxelles.
Et donc vous organisez aussi des soirées
oui.
De DJ, et du coup vous cherchez des lieux, quel type de lieux, est-ce que vous allez du coup vers des lieux un peu plus institutionnels pour un peu montrer que vous existez et vous faire connaître, ou vous allez dans d'autres réseaux?
Celle qu'on a organisée, c'était plutôt des espaces indépendants. On a fait un au Café Marcel, qui est un bike café, qui avait un espace à l'arrière à l'époque. Bon, maintenant c'est à Forêt, mais à l'époque c'était à la Gare du Nord. On a été dans un club camerounais, aussi privé. On a été aussi au café... un café à Scarbeck, je retrouve pas le nom là, au Student, et bon voilà, c'était des petits lieux comme ça, et puis après on a eu ces opportunités au Bourse, etc., de faire de la programmation via eux, voilà, d'être invité. Mais par rapport à ce que tu disais, je comprends aussi, enfin c'est vrai qu'on est entre filles, etc., et c'est vrai qu'on programme aussi des lives, et la technicienne, généralement, on essaye toujours d'avoir une technicienne. Et je comprends cette histoire de ne pas vouloir se retrouver dans un groupe comme ça stigmatisé, mais en même temps, pour moi, c'est vraiment important enfin, je me sens une certaine responsabilité par rapport à ça, et je me dis qu'à un moment donné, il faut bien falloir celles qui vont aller se mettre dans ce groupe pour pouvoir permettre ensuite de s'en dégager. En fait, je pense que c'est un passage un peu obligatoire. Enfin, c'est comme ça que moi je le vis, mais bon, voilà. Je comprends aussi que ça puisse poser problème, mais on le fait pas que pour soi en fait, hein. C'est ça.
Eugénie ?
Oui, je sais pas si j'ai bien suivi, mais vous le faites dans des studios radio, des endroits assez fermés, c'est ça, les soirées ou les programmations de DJ ?
Les soirées dans des lieux, et puis les programmations radio dans des radios.
Ok, mais donc du coup c'est diffusé largement ?
Oui.
Est-ce que ça a déjà permis de visibiliser certaines artistes, et est-ce qu'elles ont pu être programmées du coup ensuite dans des lieux extérieurs
Oui, ben pour certaines, on a pu, nous, quand on avait des opportunités d'être programmées dans des lieux, on a pu inviter justement toutes les, enfin on a pu faire appel à ces entre guillemets ressources qu'on avait rencontrées pour venir, et puis souvent enfin, oui, je trouve que Poxcat a eu souvent, on a programmé des personnes qui ensuite ont fait chemin. Après, je ne veux pas dire que c'est grâce à Poxcat, mais on les a pris à...
Oui.
Quand c'était encore nouveau, entre guillemets, et puis après, elles ont fait chemin. Donc, c'est important. Enfin, en tout cas, le collectif et cet espace moins professionnel, etc., est hyper important pour pouvoir justement s'entraîner et ensuite peut-être être pris dans les trucs plus professionnels après, quoi.
Bon, ok, merci.
Du coup, ça me fait penser à une initiative dont j'ai entendu parler récemment, hein, qui est en France, qui s'appelle Pitches and Witches, qui est un espace dédié aux femmes, aux personnes transgenres et non-binaires, comme un laboratoire en mixité choisie, où en fait les artistes, qu'elles soient professionnelles ou amatrices, en fait, donc plutôt dans le domaine des musiques actuelles, se regroupent sous la forme d'une résidence de création, mais aussi avec voilà, la personne qui va gérer la technique, que ce soit le son ou les lumières. Donc c'est vraiment cette mixité choisie dans toutes les, tous les domaines de la scène, pour être dans l'échange d'expériences, pour créer un réseau, afin de lutter un peu contre soit les discriminations sexistes ou juste voilà, être dans un climat où en fait c'est peut-être plus facile de sentir à l'aise et d'évoluer et de professionnaliser. Et est-ce que ce genre d'initiative, où ça existe en Belgique, où vous avez entendu parler de ce qui pourrait se faire dans ce domaine-là pour un peu permettre comme ça une sorte de mise en commun de ressources et de, je ne sais pas si c'est une question d'assurance, mais en tout cas de faire en sorte que pour qu'il y ait plus aussi de femmes musiciennes professionnelles, et bien ça demande aussi une manière, on parlait d'accompagnement, mais de mise en lien aussi entre des femmes dans le domaine de la musique, je ne sais pas. Sarah Boitous, tu veux...
C'est pas tout à fait la même chose, mais ça s'en rapproche un peu. C'est peut-être aussi ce principe de mentorat.
Oui.
En fait, ce qui manque beaucoup aux femmes, c'est justement ce réseau. Et le mentorat permet ça, leur permet de se rencontrer, de trouver des modèles qui leur ressemblent. Et donc de développer leur carrière, leur projet de musicienne, de professionnelle de la musique. Voilà, alors après, je ne connaissais pas Peaches and Witches, mais voilà. Je pense que c'est. Donc elles font ça en non-mixité choisie.
Oui.
Donc, oui, c'est.
Et je sais qu'elles veulent. Elles ne sont pas contre s'implanter en Belgique. Donc, voilà, c'est cette initiative qui peut intéresser Sivias.
Une nouvelle mission pour Sarah.
Du coup, ce programme de mentorat, peut-être, tu peux c'est ce que vous voulez mettre en place aussi via cet automne, c'est bien ça? Tu peux en parler
Alors, c'est un programme de mentorat qui est indépendant de Sivias.
D'accord.
C'est un... En fait, initialement, c'est un programme de mentorat qui existe en France depuis 3 ans et qui a été mis en place par la FELIN, la Fédération des labels indépendants. Et qui est un programme de mentorat qui met en relation des entrepreneuses du secteur de la musique. Donc une mentor expérimentée avec une mentorée qui a l'envie de développer un projet d'entreprise dans le secteur de la musique. Ça existe depuis 3 ans en France et aujourd'hui se développe MEWEM Europa dans 5 pays d'Europe, dont la Belgique. Et donc c'est WBM, Wallonie-Bruxelles Musique, qui est partenaire de MEWEM Europa. Et donc moi je coordonne ce programme de mentorat en Belgique pour Wallonie-Bruxelles Musique. Donc ça va commencer en septembre, ça aura lieu de septembre à janvier, septembre 2021 à janvier 2022. Et on aura 10 binômes de mentors et de mentorés qui vont développer une relation entre elles pendant 4 mois et puis qui vont aussi pouvoir participer à des ateliers collectifs sur la confiance en soi, comment on pitche un peu son projet. Voilà, c'est de la sororité, c'est de la non-mixité, c'est de l'empowerment et voilà.
D'accord. Oui.
Je me demandais si vous êtes déjà en recherche de ces binômes ou est-ce que ça va être sous forme d'appel à projet ou comment ça va se passer en fait?
On va ouvrir les candidatures aux mentorés dans quelques jours. Et on sélectionne les mentors dans l'été.
Voilà. Chouette. Bon bah, tenez-vous prêts. Prête.
Oui. Plus d'informations sur le site de Sivias, j'imagine. Peut-être je voulais revenir sur le poste de programmation, de programmateur, programmatrice d'un centre culturel. Est-ce que le fait d'être un homme ou d'être une femme a une incidence quelconque sur le choix des artistes, Sarah Gravier?
Ben, j'avais envie de parler d'une étude de Female Pressure, qui est un réseau de femmes et de personnes non cisgenres ou non binaires qui ont collecté en fait énormément d'informations sur la musique électronique. Et leur question c'était comment sont programmées les femmes. Donc elles ont fait une étude de 2012 à 2019 avec 675 festivals, éditions de festivals et 348 festivals différents. Enfin c'est énorme leur travail, ça vient de 46 pays. Et dans leur conclusion justement, donc déjà elles ont vu une évolution, il y avait 9% de femmes programmées en 2012 et elles sont passées à 24% en 2019, donc c'est ça c'est chouette. Et elle remarquait que les femmes qui géraient la direction artistique, eh bien, on retrouvait dans ces festivals un peu plus de femmes, en proportion, en moyenne. Après, c'est une question, je pense, à analyser. Je pense aussi, en tant que femme, on intériorise beaucoup de choses, et donc on peut finalement avoir ce sexisme peut-être intérioré qui va faire qui va faire qu'on programme plus d'hommes. Mais je pense qu'en tant que femme, vu qu'on subit plus le sexisme et qu'on se questionne beaucoup plus sur ces questions, à mon avis, il est possible qu'on soit plus éveillé et qu'on fasse peut-être un peu plus attention à ce qu'on programme et donc à cette parité. Moi, par exemple, j'essaye d'y faire attention. Alors directement, les gens vont dire « Ah, mais du coup, tu fais pas attention à la qualité musicale. » En fait, non. Les femmes jouent aussi très bien, donc c'est facile d'en trouver. Enfin non, c'est pas facile, mais tu peux en trouver. Donc voilà, je pense qu'il faut faire un peu une balance des deux, de la qualité musicale et d'avoir un minimum quand même de femmes dans la programmation. Mais après, c'est vraiment pas évident parce que c'est dur parfois de les trouver. Surtout le genre musical que je programme, c'est jazz et art du monde, musique du monde. Jazz, c'est quand même un milieu qui est très 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 masculin. Donc c'est différent que de la pop, par exemple, où on retrouve beaucoup plus de femmes, je pense, dedans.
Mais du coup, juste pour vraiment comprendre au niveau pratique, quand tu dis que c'est difficile à trouver, mais du coup, comment tu fais pour les trouver, parce que j'entends parfois que c'est un peu la réponse qu'on entend de certaines personnes qui programment et qui disent, ben, en fait, il n'y en a pas, mais du coup, ça se trouve quand même. Mais comment ça se trouve? Enfin, quelles sont les manières d'arriver à les trouver?
Dans les demandes, dans les catalogues, IDLM, il y a quand même des femmes, hein. RV, il y a quand même des femmes. Mais après, moi, ce que je remarque, c'est, elles ont des rôles, en fait, stéréotypés. Les femmes, souvent, c'est les chanteuses du groupe. En fait, les femmes que je programme, souvent, elles sont chanteuses, elles sont accompagnées de musiciens. Moi, je me suis quand même déjà dit, si j'ai un groupe et qu'il y a une femme dedans, je suis contente. Parce qu'un groupe, par exemple, où il n'y a que des femmes, ça, c'est la petite perle rare qu'on ne trouve quasiment pas. Même si j'ai quand même réussi à programmer Las Ironas, qui sont trois bruxelloises, un trio de femmes. Mais effectivement, en fait, on peut en programmer, mais voilà, une femme bassiste ou une femme saxophoniste, comme j'ai dit, ça, c'est dur, quoi.
Interlude musical, numéro 2. Alors, je cherche mes petites notes. Non, Orange Juice, que je vais introduire, si je trouve la petite note qu'on m'a faite, voilà. On nous dit que c'est hyper court et hyper drôle, en mode japonais des Glagos. Two-Faced Lovers, ça c'est le nom du morceau, par Orange Juice One. Et c'est un morceau tiré de l'album From Computer with Love, volume numéro 2, qui est une compile éditée par Rebecca et Fiona, les deux sœurs du groupe Acte Bonté. Elles compilent plein de titres avec des voix synthétiques et digitales, histoire de créer une tension entre l'humain et la machine. Et on nous dit que le volume 3 va bientôt sortir. Orange Juice One. Et oui, les morceaux sont courts. Orange Juice One, voilà encore une sélection du collectif Poxcat, que Leslie nous a dégoté. Radio Panique, 105.4 FM, ou en streaming www.radiopanique.org, il est 18h49. On est toujours au parc Josaphat, devant la buvette Saint-Sébastien, à côté des tireurs et tireuses à l'arc, voilà. Panique sur la ville, on parle des femmes et de la place des femmes dans le monde de la musique, et autour de la table, il y a Roberta Miss du collectif Spox 4, il y a Sarah Gravier du Sangor et Sarah Boitous de Sivias et Eugénie et Anna. Et Arthur et Zoé la technique et Sylvia la technique. Voilà. Qui on n'a pas nommé. Et on a encore une bonne dizaine de minutes. On avait envie de, d'explorer ben l'univers de la musique classique. Voilà, pour aussi voir comment ça se passe dans, dans ce secteur-là. Et on avait un petit jeu. Est-ce que des gens autour de la table pourraient nommer une compositrice de musique classique de l'époque de Mozart, Schubert, Vivaldi, compagnie hein? C'est pas évident. Ah, Sarah.
Fanny Mendelssohn, qui est connue comme la sœur de Mendelssohn, mais en fait c'était une compositrice musicienne.
Voilà.
Je ne sais plus l'époque, malheureusement, désolé.
Et moi, enfin, mes petites recherches m'ont amené à comprendre que, en fait, son père a refusé qu'elle poursuive sa carrière. Voilà.
Elle devait s'occuper de la famille et de la maison.
Et voilà. C'est le cas aussi de Clara Schumann, qui est la femme de vous savez qui, et qui a dû aussi, à cause d'occupations familiales, arrêter sa carrière.
Et juste pour rebondir, ce qui est intéressant dans les livres qui parlent de compositeurs et histoire de la musique, souvent ces femmes sont présentées comme les sœurs de, ou les filles de, ou les mères de. Et donc souvent elles ont qu'une, elles sont pas reconnues pour ce qu'elles sont, mais plus pour leur filiation, quoi. Mmh.
Tout à fait. J'avais aussi envie de nommer des sœurs, mais des sœurs d'elles-mêmes, les sœurs Boulanger, qui sont des Françaises, Lily et Nadia, du XXe siècle. Surtout parce qu'en fait, Nadia a enseigné à une grande pianiste et compositrice qui a enseigné à Gershwin, à Bernstein, à Legrand, à Philip Glass et autres. Donc voilà, et qu'on nomme ces hommes-là, mais on nomme jamais cette femme qui les a initiés à la composition, à la musique. On a envie de diffuser un extrait d'un podcast de Binge Audio de la série Les Couilles sur la table de Victor Tuyon. L'épisode qui s'intitule En musique, les hommes donnent le la, qui avait pour invité la sociomusicologue Hyacinthe Ravet, qui est autrice de l'enquête musicienne Enquête sur les femmes et la musique aux éditions Autrement. Alors on écoute, ça dure 2 minutes 45.
Et par ailleurs, est-ce que ça veut dire aussi qu'on ne va pas écouter de la même façon le son qui est produit par une femme qui joue d'un instrument de musique que le son qui est produit par un homme qui joue d'un instrument de musique?
Alors
on sourit là en posant cette question-là, parce que y a quand même... J'adore cette histoire, j'adore la raconter pour montrer à quel point notre monde encore est sexiste et de façon assez inconsciente. C'est l'histoire des paravents et des orchestres. Je vous laisse la raconter, Yacine Travet.
Oui, paravent ou rideau qui masque le candidat ou la candidate.
Pour les auditions, parce qu'il faut quand même dire que dans les orchestres, là aussi on dit, c'est le talent qui prime, nous allons recruter les meilleurs instrumentistes.
Exactement.
Voilà, à la fin du conservatoire, il y a des auditions. Si vous voulez intégrer un orchestre, il va falloir passer des auditions.
Là, on parle de ces orchestres qui sont dits permanents, c'est-à-dire sur contrat à durée indéterminée. Les places sont chères. Il y a des auditions pour devenir entrer dans ces orchestres. Généralement, il y a 3 tours d'audition. Le troisième tour, c'est la finale, qui départage les candidats pour savoir qui on va retenir. Et les orchestres, à un moment donné, ont mis donc un paravent ou un rideau qui masque candidat ou candidate. Au début, pas pour des questions de genre ou de discrimination, mais parce que on se rendait compte que souvent les personnes membres de l'orchestre, qui étaient souvent eux-mêmes enseignants dans les conservatoires, en fait, avaient tendance à recruter un peu dans un mode consanguin leurs propres élèves. Donc, il y a eu une volonté des orchestres à un moment donné d'ouvrir ces recrutements et voilà, de créer en effet un peu de surprise pour se permettre d'avoir d'autres recrutements. Et puis, quand ils ont fait ça, dans certains cas, ils se sont mis à recruter des femmes. Surprise, avec des cas absolument emblématiques, où je pense au cas d'une première bassoniste, dans un des orchestres, où ça a été extrêmement rude d'être acceptée dans cet orchestre une fois qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient recruté une femme.
C'est-à-dire ?
Pour les pionnières, dans les années autour des années 70, y a des collègues qui ont voulu casser le concours. ne s'attendaient pas à avoir une femme qui était recrutée à ce poste-là, dans cet orchestre-là. Donc, ouais, les premières qui sont entrées, parfois, elles ont dû faire face à des réactions un peu
ridicules. Donc, quand on met un paravent,
la personne arrive, joue, normalement repart, et là, on se dit, intéressant, pas intéressant, etc. Donc, il y a des orchestres. Aujourd'hui, là, ces 30 ensembles permanents français ont tous le paravent au premier tour. Mais c'est récent. Hein, c'est depuis seulement un peu moins de 5 ans que ça a été...
Aux États-Unis, ça fait beaucoup plus longtemps. Hein.
Alors, aux États-Unis, ça fait plus longtemps. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il y a une étude qui a été menée de grande ampleur aux États-Unis qui montre que le fait d'avoir un paravent donne deux fois plus de chances aux femmes de passer au tour d'après.
Et donc voilà un extrait de la série Les couilles sur la table, donc de Binge Audio. Cette histoire de paravent, Sarah Gravier, tu la connais puisque ton sujet de maîtrise était sur l'impact du genre sur la sélection de la structure du concours Reine Elisabeth. D'ailleurs, tu as remporté le deuxième prix de l'Université des Femmes. Bravo.
Oui.
Alors, comment ça se passe ce concours? Donc, on rappelle peut-être ce que c'est. Bon, peut-être les gens savent, mais c'est toujours la peine de le rappeler.
Le concours Reine Elisabeth, c'est un concours qui a lieu au mois de mai toutes les années à Bruxelles, qui est connu internationalement. On a des participants et participantes de Chine, de Russie, de France. Enfin, vraiment, c'est mondialement connu. Et il y a plusieurs concours, violon, violoncelle maintenant depuis un an, piano et chant. Et avant, il y avait composition, mais qui a été arrêté. Et anecdote, une des premières femmes à avoir gagné le concours de composition dans les années 60 a reçu des lettres qui disaient que c'était scandaleux qu'on joue un morceau composé par une femme, mais soit. Et donc du coup, il y a une question qui s'est posée, que ma promotrice Valérie Dufour s'est posée, c'est est-ce que en fait le genre imprègne ce concours et est-ce que les hommes et les femmes qui participent à ce concours ont les mêmes probabilités de réussir une étape? Donc le concours Reine Elisabeth, d'abord une première sélection sur vidéo où ils vont choisir les gens pour l'étape 1. Là, j'avais pas accès à ces données-là. Ensuite, il y a l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3 qui est la finale où ils finissent à 12 avec le premier prix. Et donc, j'ai été dans les archives et dans les vieux catalogues des années 50. Ça existe depuis les années 50 jusque maintenant, 2019. Et j'ai répertorié pour chaque concours le nombre d'hommes et de femmes de l'étape 1, de l'étape 2 et de l'étape 3. Là, j'ai demandé à un ami, Madhvei Tsichin, qui est bioinformaticien, de mettre au point, enfin, de trouver la méthode statistique qui sera la mieux pour voir si on a par exemple 60 hommes et 40 femmes, en prenant en compte le nombre d'hommes et de femmes de la première étape, est-ce qu'elles ont les mêmes probabilités que les hommes de passer à l'étape suivante? C'est la valeur pi, c'est une méthode statistique qui est assez connue, qui est beaucoup utilisée même en psychologie. Et il se trouvait que la valeur pi était significative, et donc ça veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes probabilités de réussir une étape. À quel pourcentage, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ouvrait beaucoup de questionnements. Et c'est là où j'ai essayé de développer des hypothèses et de comprendre pourquoi les femmes auraient moins de probabilités que les hommes. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Déjà, on peut se dire que la compétition, c'est une affaire d'hommes et peut-être que la femme gère un petit peu moins bien son stress. Ce n'est bien sûr pas biologique ou inné, mais dû à son éducation, tout simplement. Et ça, Yacine Travette, elle le montre dans son livre que pour les examens, pour les orchestres, beaucoup de femmes disent qu'elles sont très stressées. Enfin, ça revient beaucoup plus chez les femmes musiciennes que chez les hommes. Une deuxième hypothèse pourrait être que les femmes ont un jeu différencié que les hommes, mais qui découle du coup d'une éducation genrée, où souvent on dit à une femme, enfin à la base, la femme pianiste par exemple, c'était une femme qui jouait un jeu d'intérieur, d'agrément, un jeu doux et calme. Et on peut peut-être retrouver ça encore dans l'éducation, ça se transmet sur scène. Une des musiciennes que j'ai interrogées du jury, elle m'avait dit qu'elle avait passé un concours derrière un paravent de violon et un jury lui a fait « Oh, mais vous avez joué comme un homme. Vous avez très bien joué. »
Qu'est-ce que ça veut dire?
Et donc voilà, en fait, le jeu d'homme, c'est le jeu puissant et technique et fort, et le jeu de la femme, c'est un jeu doux et calme. Et donc peut-être que ces stéréotypes se retrouvent encore dans les jeux, encore une fois, ce n'est pas biologique, et donc se retrouvent sur scène au concours Reine Elisabeth. Et vient la troisième hypothèse, c'est qu'en fait, il y a une construction culturelle du compétiteur et de l'artiste qui est androcentrée. Et donc ça veut dire en fait que souvent, ce qui paraît neutre comme l'artiste, ben, en fait, ça renvoie au masculin. Et quand je faisais des entretiens semi-directifs avec des membres du jury et que je leur demandais leurs critères de jugement, en fait, c'est assez flou finalement. Ils me parlaient beaucoup de l'artiste. Ils veulent trouver l'artiste, ils veulent trouver la personnalité qui jouera le mieux. Mais du coup, en fait, on peut se dire que ça renvoie beaucoup plus un homme, un jeu aussi jugé comme masculin, et donc inconsciemment, peut-être qu'ils mettent une moins bonne note aux femmes et elles réussissent moins bien. Mais tout ça, c'est des hypothèses, et je pense qu'elles peuvent aussi s'entrecroiser et jouer ensemble pour le concours.
Parce que les critères sont pas forcément bien définis de façon neutre, ou en tout cas pas rattachés à un genre ou...
En fait, ils fonctionnent sur des points, donc ils donnent des points sur chaque prestation. Et moi, il y a une étude qui m'avait aussi un peu retourné le cerveau. C'est une étude qui est menée dans les années... une expérience menée en 2013. Et c'est un homme qui s'est demandé comment on juge les performances artistiques. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris des participants à un concours très connu, je pense, aux États-Unis. Il a demandé à des gens de trouver le premier prix, le deuxième prix, le troisième prix, enfin, qui avait finalement le mieux joué. Et donc pour ça, soit ils se basaient sur une vidéo silencieuse, donc ils voyaient les performances seulement avec la vue, soit ils se basaient sur le son uniquement, soit ils se basaient sur la vidéo et le son. Eh bien, figurez-vous que la vidéo silencieuse, 46% de réussite, et le son uniquement, 25% de réussite. Et c'est là qu'on se rend compte en fait que le jugement est extrêmement influencé par le visuel, et le visuel c'est le corps, et le corps c'est l'homme et la femme, et voilà, et je pense que tout ça s'entrecroise et en fait impacte le jugement des jurys et des experts.
Il faudrait que le paravent soit plus visible du coup dans ce genre de dispositif aussi quoi.
Oui, mais le problème du coup du concours Anne-Elisabeth c'est que c'est un concours très très médiatisé, et je pense que c'est pas vendeur en fait de mettre un paravent lors du concours tout simplement quoi.
Oui, on peut le mettre devant le jury et pas devant le public.
Ou alors on fait comme The Voice et ils se retournent et ils appuient sur un bouton et si ils aiment bien.
Ça marche par contre. Tu dis, Eugénie ?
On verrait pas le jury, quoi.
On verrait pas le jury, moi, peut-être pas besoin de le voir non plus. Composé que d'hommes, probablement.
Ah oui, ça aussi, je l'ai noté. Et fun fact, même dans les concours où il y a plus de femmes qui se présentent, comme le violon ou le chant, on retrouve des jurys quasiment composés que d'hommes. Ce qui est malheureux, vu qu'au final, il y a plus de femmes qui se présentent, donc on pourrait se dire qu'il y a plus de femmes musiciennes pour ce type d'instrument, mais on en revient à la ségrégation verticale et le plafond de verre dont parlait Sarah, qui a lieu même dans les concours et les milieux musicaux.
Mm-hmm. Oui, puis il pourrait y avoir une parité, quel que soit le médium, durant la performance, quoi.
Oui, tout à fait.
J'allais clôturer, à moins que vous ayez... envie de rajouter quelque chose dont on n'a pas parlé, qui vous semblait important, qui nous a échappé, qui est un vaste sujet. Mais...
Ben moi, je voudrais peut-être juste rajouter une solution qui est proposée par Caroline Leduc, qui est une musicologue, pour essayer de voir des choses qu'on peut faire, parce qu'on a parlé quand même beaucoup de faits qui sont un peu peut-être déprimants. Elle a analysé du matériel pédagogique et plus de 100 ouvrages, où en fait, il y a des morceaux dedans qui sont enseignés au conservatoire et pour les jeunes. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il n'y a que 12 manuels sur 100 qui contenaient des morceaux de compositrices. Et les posters des classes, avec par exemple une ligne du temps des grands compositeurs, il y en avait où il n'y avait aucune femme. Et donc je pense qu'une piste de solution, ce serait de s'intéresser à ce matériel pédagogique qui forme les futurs musiciens et musiciennes, et essayer du coup de trouver des parités dedans, quoi.
C'est aussi ça, hein, l'image qu'on a de... Enfin voilà, si on voit plus de femmes musiciennes, ça peut donner aussi plus envie à des filles ou des femmes de devenir aussi musiciennes, quoi. C'est aussi ce jeu de Ah, c'est quoi le terme ?
Icône-égérie.
Vous dites ?
Icône-égérie.
Oui, par exemple. Mais de représentation ou de modèle. Merci.
Modèle.
Il est 19h. On va conclure. 19h02 même, pour laisser la place à la suite de la programmation sur Radio Panique. Ce sont donc les quenouilles qui vont prendre place autour de la table et qui vont discuter autour d'un mot, c'est toujours un mot thème, et c'est le mot A7 dans leur émission ce soir. Merci à toutes d'avoir accepté l'invitation. Donc on rappelle Sarah Bouatous de Sivias.
Merci.
Sarah Gravier donc du Sangor.
Merci.
Voilà. Robert Tamis de Foxcat.
Merci.
Eugénie et Anna de la rédaction.
Salut, voilà. Bonne soirée.
Super. Et puis merci Zoé pour la technique, aidée de Suzy. Moi c'est Arthur. Et je voulais finir avec un morceau de musique. J'avais envie de passer Mathilde Fernandez. Et j'avais envie de passer le morceau Égérie.